passeport. Olivier Lunyanga, Simon Lungela, la taille de référence.
Il y a toutes vos questions
tous les vendredis à 17h10 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et à la une aujourd'hui, des tirs israéliens dans le sud du Liban alors que les deux pays doivent se retrouver aujourd'hui à Washington pour des négociations. Nous appellerons notre correspondante à Jérusalem dans une heure. Nous irons au Royaume-Uni 10 ans après le référendum sur le Brexit et la décision des Britanniques donc de sortir de l'Union Européenne. Les partisans du camp du Leave, comme on les appelait, étaient particulièrement nombreux chez les mineurs du nord de l'Angleterre et notre correspondante est allée les retrouver.
J'aimais l'union douanière et la liberté de mouvement, mais j'aurais aimé une autre relation à l'Europe. Malheureusement, ma voix s'est perdue dans le débat.
Reportage à écouter à 12h25, temps universel. Vous entendrez aussi dans quelques minutes l'analyse de celui qui a été le principal négociateur pour le Brexit, l'ancien Premier ministre français Michel Barnier.
RFI Midi.
Au sommaire également, la guerre en Ukraine et la stratégie de Kiev pour étouffer économiquement la Crimée occupée par la Russie depuis 2014. On en parle avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Et puis du foot encore au programme. La déception du Sénégal battu hier 3-2 par la Norvège. Ça n'est pas complètement terminé pour les Lions de la Teranga dans cette Coupe du Monde, mais ils sont en mauvaise posture. Détail dans le journal des sports dans une heure et quart et dans Afrique Midi à 12h30 temps universel. La Coupe du Monde et un record battu par...
Messi,
encore Messi et toujours Messi. Le petit génie argentin a marqué 2 fois encore hier et il est désormais seul meilleur buteur en Coupe du Monde. On en parle dans un instant dans le journal. Vous avez le programme. Bienvenue. Votre journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Au Royaume-Uni d'abord, le pays qui s'apprête à changer de Premier ministre.
Oui, le Premier ministre Keir Starmer a donc annoncé hier sa démission, mais il restera en fonction jusqu'à la désignation d'un successeur. Pour l'instant, il y a un seul candidat, l'ancien maire de Manchester et maintenant député Andy Burnham, pas encore nommé et déjà pressé de désigner l'équipe qui l'accompagnera, Emmeline Vint.
Sans concurrent direct, pour l'instant, Andy Burnham pourrait ne pas avoir besoin de convaincre, de présenter un programme, mais pourrait y être contraint s'il souhaite conserver son capital confiance jusqu'à son entrée à Downing Street. L'objectif, pour ce socialiste autoproclamé, faire consensus auprès de l'ensemble du groupe parlementaire. Le choix le plus marquant, ce sera le nom plébiscité pour le poste de chancelier, le ministre des Finances. Un poste important dans une économie britannique à la peine. Ed Miliband, l'actuel ministre de l'écologie, constituerait une décision radicale, une main tendue vers la gauche du parti, mais potentiellement critiquée par le patronat. Andy Burnham revendique une approche politique locale basée sur une décennie d'expérience dans le nord de l'Angleterre. Il devrait désigner d'autres personnalités à la gauche du parti, opposées au très londonien Keir Starmer, par exemple. Cependant, ancien ministre de Gordon Brown, Andy Burnham sait aussi que les marchés n'aiment pas les grands bouleversements. Il devrait conserver autour de lui quelques membres du cabinet actuel, en particulier la ministre de l'Intérieur, la très centriste Shabana Mahmood. Andy Burnham prévoit plusieurs discours politiques la semaine prochaine. Emeline Van Londres, RFI.
Le départ de Keir Starmer ne devrait pas changer le cours des négociations de rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, de sources européennes. Le sommet bilatéral prévu le 22 juillet devrait être simplement reporté. Hasard du calendrier, au Royaume-Uni, c'est aujourd'hui le 10e anniversaire du Brexit que regrette une majorité de Britanniques. Par la voix de son principal négociateur, l'Iran réitère sa volonté de garder le contrôle sur le détroit d'Ormuz, tandis qu'a pris fin en Suisse le premier round de négociations avec les Américains. Après un marathon de 18 heures de pourparlers, place maintenant à des discussions techniques confiées à des groupes de travail, en particulier sur le nucléaire iranien et la levée des sanctions. Sur place, la fréquentation du détroit d'Ormuz reprend progressivement. Le trafic maritime a atteint hier lundi un niveau record depuis le début de la guerre fin février.
Parallèlement, les États-Unis lèvent leurs sanctions imposées sur le pétrole iranien et ses dérivés.
Leur dérogation accordée pour une durée de 2 mois ouvrant en effet la voie voix aux ventes iraniennes facturées en dollars. 2 mois, c'est le temps qu'aboutissent les négociations visant à mettre fin à la guerre. Anish Kakumor, bonjour.
Bonjour.
Ce feu vert américain, c'est inédit hein, depuis des décennies.
C'est un virage à 180 degrés de la politique américaine. Pendant des années, l'Iran a utilisé le réseau clandestin de pétroliers pour vendre son brut, principalement à la Chine. Cette levée de sanctions temporaires est donc une aubaine pour le régime qui peut vendre son pétrole. Les transactions devant se faire en dollars. Téhéran a besoin urgent de devises étrangères pour les injecter dans l'économie iranienne fortement dépendante des revenus pétroliers. Cela signifie que les banques du pays pourront désormais recevoir des paiements directement de l'étranger. Pour la première fois aussi, en près de 40 ans, les producteurs américains de carburant auront la possibilité d'acheter de nouveau du pétrole iranien. Trop de concessions octroyées par Washington, selon certains experts. L'opposition démocrate aux États-Unis parle même de capitulation, alors que l'incertitude règne quant au prochain statut du détroit d'Hormuz.
Merci Agnieszka Kumor du service économie. Le Liban entame aujourd'hui à Washington un nouveau cycle de discussions avec Israël. Pour les responsables libanais, seules ces négociations directes permettront de mettre un terme au conflit déclenché début mars quand le Hezbollah a attaqué Israël en soutien à l'Iran. Depuis avril, 4 cycles de pourparlers n'ont toutefois pas permis d'aboutir à un cessez-le-feu durable. Ce matin, des tirs israéliens ont fait 1 mort et 2 blessés dans une localité du sud du Liban. L'armée israélienne reconnaît avoir tiré pour la première fois depuis dimanche.
En France, Marc Bloch va devenir tout à l'heure le premier historien à entrer au Panthéon.
Oui, Emmanuel Macron préside ce soir une cérémonie en l'honneur de l'auteur de L'étrange défaite, livre sur la débâcle française en 1940. Lui, Marc Bloch et sa femme Simone Vidal, elle aussi transférée au Panthéon. L'historien reconnu a combattu pour la France lors des 2 conflits mondiaux avant de devenir résistant et de mourir assassiné par la Gestapo. L'intérêt de Marc Bloch pour l'Allemagne où il séjourna entre les 2 guerres, son intérêt pour l'enseignement de l'histoire aux plus jeunes, mais aussi son engagement dans la résistance. Tout cela fait de lui un symbole de la relation franco-allemande. À Berlin, le centre de recherche en sciences sociales franco-allemand porte son nom. Il a décidé de lancer un concours destiné aux lycéens français et allemands. Notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault, a assisté à la finale de ce concours.
Marc Bloch, le patriote, ce n'est pas une litote. Contre tous les despotes pour soutenir ses compatriotes.
Du slam pour évoquer Marc Bloch, l'idée des 2 lycées de Hambourg et de Nantes qui ont travaillé en binôme était pour le moins originale. Les participants du projet ont dû tout d'abord ingurgiter de nombreuses connaissances sur l'historien et son œuvre avant de restituer une prouesse, l'essentiel en français et en allemand. Et en rime. D'autres projets ont innové avec un journal télévisé de TF1 sur Marc Bloch, des bandes dessinées ou des jeux de société. À l'arrivée, c'est une autre équipe associant les mêmes lycées de Hambourg et de Nantes qui l'a emporté. Les jeunes très engagés se sont lancés dans un projet ambitieux, obtenir que la rue où se trouve leur lycée à Hambourg soit rebaptisée pour porter un jour le nom de Marc Bloch.
Le principe, c'est que ça soit un historien français parce que justement, on voulait symboliser l'amitié franco-allemande. Parce que c'est vraiment un personnage exemplaire qui pourrait vraiment beaucoup influencé aussi l'école, etc.
L'actualité de Marc Bloch faisait partie du cahier des charges des lycéens. Plusieurs projets évoquaient l'intelligence artificielle ou la désinformation sur les réseaux sociaux et le message que les travaux de Marc Bloch pouvaient aujourd'hui délivrer pour faire face à ces nouveaux défis. Les lauréats du concours pourront assister sur place ce soir à la panthéonisation de Marc Bloch. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Panthéonisation qui est la 6e d'Emmanuel Macron après celle de Simone Veil, Maurice Genevoix, Joséphine Becker, Missak Manoukian et Robert Badinter. Toujours pas de Premier ministre en Roumanie. Le président Nicozor Dan avait chargé le libéral Adrian Vestea de former le nouveau gouvernement, mais celui-ci a échoué hier soir à obtenir l'investiture du Parlement. La Roumanie est privée de gouvernement depuis maintenant 47 jours. Pour la 23e soirée consécutive, des milliers de manifestants ont défilé hier soir dans les rues de Tirana, la capitale de l'Albanie, a parti du rejet d'un projet immobilier de proche de Donald Trump. La contestation appelée la révolution des flamants roses vise maintenant toute la classe politique, à commencer par le Premier ministre Edi Rama, au pouvoir en Albanie depuis 2013.
4 matchs au programme aujourd'hui en Coupe du Monde de foot.
Portugal, Ouzbékistan, suivi de Colombie et RD Congo dans le groupe K et dans le groupe L, Angleterre, Ghana et Panama, Croatie. Plusieurs sélections ont maintenant leur billet pour les 16e de finale à cette Coupe du Monde. La France, l'Argentine, la Norvège et leurs attaquants vedette. Kylian Mbappé, Erling Haaland, auteur d'un doublé hier, de même que Lionel Messi. À presque 39 ans, l'Argentin est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Lionel Messi a inscrit un doublé lors de la victoire des siens contre l'Autriche, portant son total à 18 réalisations en 28 matchs. Lionel Messi rentre encore un peu plus dans l'histoire de son sport, Baptiste Leduc.
20 ans se sont écoulés entre le tout premier but de Lionel Messi dans une Coupe du Monde et le soir où il en est devenu le meilleur buteur. En 2006, c'est un jeune prodige de 19 ans qui débloque son compteur dans une victoire facile de l'Argentine contre la Serbie-Monténégro. En 2026, c'est une légende de presque 39 ans qui s'offre un énième record en ayant inscrit les 5 buts de son équipe depuis le début de son 6e mondial. S'il continue sur sa lancée, Lionel Messi pourrait bien connaître sa Coupe du Monde la plus prolifique, lui qui avait marqué 7 fois en 2022 en menant l'Argentine au sacre. Et puis peut-il s'attaquer à un autre record réputé inatteignable, celui du nombre de buts marqués en une seule édition du mondial. En 1958, le Français Juste Fontaine avait scoré 13 fois. Il reste au maximum 6 matchs à Messi pour réaliser l'impossible.
Baptiste Leduc, enfin la chaleur extrême se poursuit dans pratiquement toute l'Europe de l'Ouest. Jour après jour, les records de température s'enchaînent. Ce mardi devrait faire date au Royaume-Uni avec des records de température pour un mois de juin. La quasi-totalité de l'Espagne a été placée en alerte et l'Italie a décrété une alerte rouge dans 15 villes. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présidé ce matin une nouvelle réunion interministérielle de crise. La nuit dernière a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947. Partout, donc en Europe, la chaleur suffocante pèse sur les organismes et freine l'activité économique. Les transports, les écoles, les hôpitaux et d'autres secteurs la subissent à des degrés divers. Voilà, bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
Gilles Moreau pour le journal, à tout à l'heure.
RFI, l'Europe à midi.
C'est une visite très contestée. Des représentants du régime taliban d'Afghanistan sont aujourd'hui à Bruxelles pour parler immigration avec la Commission européenne, elle qui envisage de renvoyer des réfugiés afghans vers leur pays. Ça fait des mois, Muriel Paradon, que les ONG et certains parlementaires européens dénoncent cette décision, cette discussion. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en sait de cette visite, des conditions dans lesquelles elle se déroule?
Alors, la Commission européenne à Bruxelles n'a pas communiqué officiellement sur la tenue aujourd'hui même de cette rencontre sensible. Mais on sait par le ministère belge des Affaires étrangères que 5 visas ont été octroyés hier soir à des responsables talibans. Des visas pour une entrée en Belgique, une journée seulement, pas de visa Schengen donc. L'Union européenne, on le rappelle, ne reconnaît pas le régime des talibans revenu au pouvoir en 2021 en Afghanistan. L'astuce est de dire que cette visite se déroule au niveau technique. La Commission ne recevra donc pas de responsables politiques, dit-elle. Faux, rétorque Alexis Dessoif. Il est président de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains.
Quand on voit la composition de la délégation, avec notamment le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et le directeur des Affaires consulaires, ce n'est pas une délégation de bas niveau. Et c'est pour cette raison-là que nous dénonçons cette invitation par l'Union européenne qui a souvent le mot de « valeurs européennes » à la bouche et qui en fait est prête à les trahir pour des basses questions migratoires.
Car on le rappelle, le régime des talibans est condamné à travers le monde pour sa politique contraire aux droits humains, notamment vis-à-vis des femmes. La répression n'a cessé de se durcir à leur égard. Et puis, il y a une grave crise humanitaire dans le pays actuellement, ce qui préoccupe évidemment les organisations de défense des droits humains, mais aussi un certain nombre de politiques, des parlementaires, qui ont signifié leur mécontentement sur cet accueil de cette délégation talibane à Bruxelles.
En tout cas, le processus de discussion entre les Européens et les talibans est bien avancé déjà.
Oui, des responsables européens se sont rendu à Kaboul à 2 reprises déjà ces derniers mois. Il y a une volonté d'un certain nombre de pays, de lieux, de faciliter le retour des réfugiés afghans dans leur pays. La Commission précise qu'il s'agira de déboutés d'asile, particulièrement de personnes qui représentent une menace pour la sécurité en Europe. Alors certains pays ont déjà commencé à rapatrier des Afghans chez eux. L'Allemagne, en 2024, avait expulsé 100 de personnes par des vols charters facilités par le Qatar. Ces personnes avaient été condamnées par la justice. On le rappelle, plusieurs attaques perpétrées par des Afghans, dont une à la voiture Bélier en 2025, avaient fait beaucoup de bruit dans le pays. Donc plusieurs retours ont été organisés. L'Autriche, la Belgique ou encore la Suède sont un peu sur cette même ligne.
Et tout ça arrive dans un contexte de durcissement très net de la politique migratoire de l'Union européenne.
Oui, les pays de l'UE, d'abord, on le rappelle, ont reçu environ un million de demandes d'asile de la part des Afghans ces 10 dernières années. La moitié ont été approuvées. Donc ils sont très nombreux, mais effectivement, cela se fait dans un contexte de durcissement de la politique migratoire. Un nouveau pacte a été adopté ce mois-ci, avec plusieurs mesures pour envoyer les migrants chez eux, soit avec des accords pays par pays, soit avec des hubs de retour des pays tiers qui pourraient les accueillir.
Muriel Paradon.
RFI Midi.
On parlait tout à l'heure du probable futur Premier ministre au Royaume-Uni, Andy Burnham, qui devrait prendre les rênes dans quelques semaines, dans quelques mois, à la tête donc d'un pays au positionnement délicat face à l'Union européenne. L'actuel Premier ministre, lui, s'est beaucoup rapproché des 27, sans vraiment revenir sur le Brexit, cette décision choc prise il y a 10 ans exactement. Et l'ancien négociateur pour le Brexit et ex-Premier ministre français Michel Barnier en parlait ce matin sur notre antenne avec Arnaud Pontus.
Ça reste une décision, de mon point de vue, insensée, s'agissant de l'intérêt national britannique d'avoir quitté le marché unique. Et donc, oui, ça reste une décision dont personne, jusqu'à maintenant, pendant les 10 dernières années, y compris Farage, le leader populiste et nationaliste britannique, personne n'a pu me démontrer la moindre valeur ajoutée du Brexit. Donc c'est une décision qu'il faut respecter, nous l'avons respectée, nous avons d'ailleurs délivré un traité de divorce, oui, en respectant les Britanniques, mais il faut aussi essayer d'en comprendre les raisons, parce que parfois, il y a dans ce vote, il y a 10 ans, des avertissements pour nous-mêmes.
Michel Barnier, aujourd'hui, 56% des Britanniques au moins souhaitent retourner au sein de l'Union européenne. Est-ce que les Britanniques que vous rencontrez, vous êtes à Londres aujourd'hui, est-ce que ces Britanniques vous disent leurs regrets ?
Oui, je pense qu'il y a un sentiment maintenant majoritaire de regret. Les conséquences qui n'avaient pas été expliquées aux citoyens avant le référendum, pour l'Irlande du Nord, pour toutes les restrictions qui ont été reconstruites pour l'accès au marché unique. Je corrige, ils ont accès au marché unique sans tarifs et sans quotas, mais tout est plus compliqué puisque les biens qui s'exportent sont contrôlés dans un sens comme dans l'autre. Voilà pourquoi je trouve que c'est une erreur d'avoir quitté le marché unique. Oui, il y a un regret général. De là à dire que le débat va porter sur le fait de rejoindre l'Union européenne, je ne dirais pas cela. Je ne sens pas ça dans la génération politique du travailliste ou des conservateurs qui ont assisté ou qui ont participé de près ou de loin à ce Brexit.
Vous ne sentez pas cette aspiration. Est-ce que vous, en tant que ex-négociateur, ex-premier ministre français, aujourd'hui député de Paris, vous souhaitez ce retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, Michel Barnier ?
Mais nous avons regretté le départ parce que c'est un lose-lose game. Donc aujourd'hui,
perdant.
Si on me dit, est-ce que c'est toujours perdant. Nous avons été amputés d'un pays très dynamique et un siège au Conseil de sécurité. Et donc c'est une perte pour tout le monde. Sans doute plus grande pour eux que pour nous parce que nous sommes plus nombreux et qu'on a la force du marché unique pour résister. Mais dès l'instant où je vous dis que je regrette qu'ils soient partis, je vous réponds que la porte est ouverte s'ils veulent revenir. Ils en connaissent les conditions. Il n'y aura pas de cherry picking, il n'y aura pas de marché unique à la carte. Les conditions d'une réadhésion sont celles d'une négociation pour rejoindre le cahier des charges européen.
Donc il faudrait renégocier. Et vous, si on vous le demande, vous seriez prêt à être le négociateur en chef du Britain?
Franchement, je ne me suis pas posé cette question. Je suis toujours prêt à être utile, y compris, et d'abord pour notre pays qui a besoin de toutes les énergies. Naturellement, même s'ils ne reviennent pas maintenant, ça reste un grand pays que je respecte et c'est ce que j'ai dit tout au long de ces deux journées passées à Londres jusqu'à ce soir. Nous avons des choses à faire avec les Britanniques en matière de défense, de politique étrangère, de lutte contre le terrorisme, de stabilité pour le continent. Comme nous travaillons déjà aux côtés de l'Ukraine en ce moment, dans une période décisive, il y a des choses à faire avec les Britanniques.
C'est ce qui peut se faire et aller encore plus loin qu'aujourd'hui, vers ce rapprochement.
Je plaide pour une coopération indépendamment de la question de rejoindre le marché unique ou pas.
Michel Barnier, certains disent que l'Union européenne, après tout, se porte mieux sans les Britanniques. Est-ce que c'est aussi votre point de vue ?
Bon, je pense qu'elle se porterait mieux encore avec les Britanniques. Mmh. Dans ce monde-là, la question qu'on doit se poser comme citoyen ou comme homme politique, c'est comment on défend nos intérêts, comment on défend nos valeurs, comment on défend notre identité nationale et européenne. Si on est tout seul, de mon point de vue, on est dominé et condamné à être sous-traitant et sous influence. Donc on serait plus fort avec les Britanniques et quelles que soient les difficultés du dialogue avec eux.
Michel Barnier, ancien Premier ministre français et négociateur sur le Brexit, donc il y a 10 ans et pendant les années qui ont suivi, puisque ça avait pris beaucoup de temps pour Londres et Bruxelles de se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Cet entretien est disponible sur l'appli RFI Pure Radio si vous souhaitez le réécouter.
RFI Midi, Anne Contner.
Le Brexit à la une, bien sûr, de la presse au Royaume-Uni. Et The Independent nous apprend que la majorité de la Gen Z souhaite aujourd'hui réintégrer l'Union européenne. Le journal nous parle aussi du député travailliste Al Carnes, qui refuse d'exclure de se présenter contre Andy Burnham pour le poste de Premier ministre. Andy Burnham, dont on a beaucoup parlé, le maire de Manchester, et qui est donc pressenti pour succéder à Keir Starmer, qui a annoncé sa démission hier. La Repubblica en Italie revient largement sur la chaleur inhabituelle qui touche en ce moment toute une partie de l'Europe et sur la manière dont les habitants s'adaptent. Restaurants fermés, compétitions suspendues et couvertures aux fenêtres. L'Europe, nous dit le journal, s'efforce de trouver des solutions d'urgence et la Repubblica cite une étude sur le dérèglement climatique. Nous avons été trop optimistes. Les températures augmentent plus vite que prévu. Et puis El País consacre un éditorial à la corruption avec ce titre: contre la décadence politique. La corruption réelle ou supposée n'est pas la cause de la crise des démocraties, elle est plutôt son reflet. Pour définir les principales causes des tensions politiques actuelles, on invoque souvent, nous dit l'article, la corruption et la politisation du pouvoir judiciaire. Je ne minimise en aucun cas la gravité de ces deux phénomènes, explique l'auteur. Ils portent atteinte aux libertés individuelles et pourraient détruire notre démocratie, mais je ne crois pas qu'ils soient la cause première des problèmes politiques actuels. Ils en sont une conséquence, donc, estime El País.
RFI, l'Europe à midi.
C'est un problème qui touche quasiment toute l'Europe. Il est de plus en plus difficile de se loger, de plus en plus cher. Le prix des ventes a augmenté de 55% depuis 2010, 27% pour les loyers, au point qu'en Irlande, par exemple, quasiment tous les étudiants vivent encore chez leurs parents. Les jeunes n'ont plus les moyens de se loger pendant leurs études et après, eh ben c'est toujours compliqué. La plupart des classes populaires ne peuvent pas vivre dans les grandes villes, trop chères. Alors que paradoxalement, il y a des logements vides et dans la ville française de Lille, il existe un dispositif unique pour les repérer, ces logements vides, remonter jusqu'au propriétaire ou à ses héritiers et les réhabiliter pour pouvoir les louer. Reportage, Lise Verbeck.
À une dizaine de minutes en métro du centre-ville de Lille, il y a le quartier de Fives, un quartier populaire avec beaucoup de maisons d'habitat type ouvrier comme les Courets. Sur son plan, Mélanie Bourgeois de la Fabrique des Quartiers a coché une dizaine d'adresses, des maisons qui sont entrées dans le programme de réhabilitation.
Donc là, on est devant cet immeuble que la métropole européenne de Lille vient de nous transférer et on a identifié en fait que le propriétaire était décédé il y a plus de 30 ans. Il n'y avait pas eu de succession ouverte. On a accompagné la ville pour délibérer sur le fait que c'était un bien sans maître et pouvoir l'incorporer au domaine privé. Et donc ça constitue un bien gratuit, entre guillemets, sur lequel on va travailler un recyclage immobilier. Alors certes des biens gratuits, mais très chers à réhabiliter. Voilà, en fonction de comment ils ont été exposés aux intempéries, à l'humidité, voilà, on peut retrouver toutes sortes de pathologies. Ce qui est assez étonnant quand on travaille sur les biens vacants, c'est qu'on a le sentiment de temps suspendu en fait. On peut ouvrir la porte et voir du mobilier d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'a pas bougé comme si la personne était partie et avait tout laissé derrière elle. Ou au contraire, ça peut être un réel dépotoir.
Les maisons vides peuvent être squattées ou alors le propriétaire a laissé l'immeuble se dégrader. À quelques rues, il y a cette autre maison vide. Les rideaux sont en lambeaux, certaines fenêtres sont cassées et la façade recouverte de traces noires d'humidité. Le propriétaire a été sommé de faire des travaux par la ville, travaux qu'il n'a jamais fait.
On a un propriétaire en face, mais qui ne réagit pas en fait à nos sollicitations pour réhabiliter le bien ou le mettre en vente pour qu'un autre propriétaire le réhabilite.
réhabilite. Et donc là, on active la menace un peu de l'expropriation.
Avant de lancer les différentes procédures juridiques pour récupérer et réhabiliter les logements, il faut les repérer sur le terrain. Les agents de la fabrique des quartiers arpentent donc les rues de la métropole lilloise, l'œil bien ouvert.
Un faisceau d'indices, ça peut être l'état des menuiseries, la façade, la couverture, les arbres papillons qui commencent à pousser dans les murs, les boîtes aux lettres qui sont pleines en fait de courriers, les volets fermés, les menuiseries cassées. Et puis on peut se permettre de toquer chez les voisins pour savoir si ils connaissent les propriétaires, si y a eu des échanges auparavant. On a pu avoir recours aussi à les informations des techniciens des villes, qui peuvent avoir des plaintes de voisinage ou autre. Donc on avance comme ça progressivement.
Une fois la vacance confirmée, l'enquête se poursuit pour retrouver le ou les propriétaires.
C'est un travail de détective, un travail de fourmi.
Mohamed Meni, directeur foncier immobilier.
On va interroger le cadastre, on interroge la publicité foncière, on se renseigne auprès des communes sur est-ce que les gens sont encore vivants, est-ce qu'ils sont décédés, s'ils sont décédés, est-ce qu'ils ont des héritiers. On est amené à prendre contact avec les notaires pour voir si les successions sont ou ne sont pas réglées. Parfois, on a également le concours des généalogistes successoraux, qui sont des labradors, qui viennent nous aider pour justement aller rechercher sur le territoire national et même au-delà. On a pas mal de situations où on a des propriétaires décédés à l'étranger, avec des héritiers parfois à la fois à l'étranger et à la fois en France.
Il arrive régulièrement que les juristes de la fabrique des quartiers se retrouvent face à des successions difficiles, où par exemple une fratrie est en conflit. Pour Mathilde Villomé, l'humain est au cœur de son travail.
Là, on parle de biens vacants à débloquer. Mais au fond, on a quand même une histoire très forte derrière. Parfois, j'ai eu des propriétaires décider sur un passage à niveau. Donc, on peut tout imaginer. Alors, on va pas rechercher le pourquoi du décès. Mais on est quand même face à l'histoire de ces personnes. Et j'ai aussi eu des personnes qui étaient en mesure de protection. Où il y avait interdiction de donner l'adresse à l'ex-époux qui était en mesure d'éloignement. Donc on est face finalement à énormément de situations parfois très touchantes. Là, j'en parle, j'en suis émue.
À ce jour, 850 logements vacants de la métropole ont été remis sur le marché ou sont en voie de l'être grâce à la fabrique des quartiers. La plupart du temps, ils sont vendus à des bailleurs sociaux, ce qui permet de réduire un peu la liste d'attente pour obtenir un logement social. Et quand les maisons sont vendues à des privés, la fabrique des quartiers exige qu'ils le louent à un loyer modéré.
Reportage de Lise Verbeck à écouter tout à l'heure dans l'émission Accent d'Europe. C'est à 19h40, temps universel. Pour l'heure, il est quasiment 11h30, toujours en temps universel. Et dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera votre journal, Charlotte Hydrac, avec à la une les thermomètres qui s'affolent un peu partout en Europe.
Oui, température toujours exceptionnelle en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni ou en France. La nuit dernière a été la plus chaude jamais enregistrée dans le pays. Le patron de l'ONU blâme les énergies fossiles et appelle le monde à agir de toute urgence.
Au sommaire également, le conflit dans le conflit au Liban.
Au moins 2 personnes tuées dans des tirs israéliens dans le sud du pays. Aujourd'hui, les premiers tirs depuis dimanche, alors qu'un nouveau cycle de pourparlers entre Liban et Israël doit justement démarrer à Washington. Le Hezbollah dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. À suivre aussi les talibans en visite à Bruxelles, des représentants du gouvernement afghan qui viennent discuter avec des représentants de la Commission européenne du renvoi d'exilés, perspective dénoncée par des ONG, vers un relèvement progressif du départ à la retraite en Allemagne au-dessus de 67 ans. C'est ce que recommande la Commission sur une réforme en profondeur du système. Et puis les bourses mondiales plombées, la tech inquiète avec les glissades des géants américains du secteur.
À tout à l'heure, Charlotte.
À tout à l'heure.
RFI. La France à midi.
L'actualité en France, c'est l'entrée au Panthéon ce soir de l'historien Marc Bloch avec son épouse Simone Vidal. C'est la 6e fois depuis l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir qu'une telle cérémonie va être organisée. probablement la dernière avant qu'un nouveau chef de l'État lui succède l'année prochaine. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Anne.
Le choix de Marc Bloch, torturé et exécuté par la Gestapo le 16 juin 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale, est donc particulièrement important.
Oui, quand Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir pour ce qui pourrait être son dernier discours de panthéonisation, ces mots vont forcément faire résonner le passé avec le présent. Marc Bloch, historien, juif, mais laïc, combattant lors de la Première Guerre mondiale, résistant lors de la Seconde, qui défendait la vérité, tout dans son parcours et sa pensée offre à Emmanuel Macron la possibilité d'envoyer un message politique aux Français. L'Élysée l'a d'ailleurs expliqué, le président s'inscrit dans la démarche de Marc Bloch pour qui l'histoire n'est pas glacée, elle devait servir l'action au temps présent. Un temps présent marqué par la résurgence des nationalismes, de l'antisémitisme et en France, la progression du Rassemblement national. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on invoque l'héritage de Marc Bloch, dont la conception de l'homme était centrée sur l'ouverture et non le repli identitaire. Et on résume le message du président. Être français, c'est d'abord une affaire de choix. Dans cette année de campagne présidentielle, la panthéonisation de Marc Bloch est aussi un moyen de poursuivre ce qui était le combat fondateur d'Emmanuel Macron en 2017, empêcher le parti de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir.
Ce message, il a été un fil conducteur de toutes les panthéonisations décidées par Emmanuel Macron.
Oui, on se rappelle récemment de la cérémonie d'entrée au Panthéon de Robert Badinter, dont la famille, comme celle de Marc Bloch, était opposée à la présence de représentants du RN, mais aussi de la toute première